Salut à tous, re-bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode des 3 quarts d'heure de cette équipe. Pour commencer ces 3 quarts d'heure, on va parler en première période forcément du Servette FC qui a perdu à Lucerne, un match assez incroyable avec un milliard d'occasions et on se posera la question de savoir si René Weiler est menacé. Ensuite, on partira sur le quart d'heure vaudois et forcément également Yverdon Sport qui a battu Bâle dans un stade comble. Bon, 4200 personnes, mais un stade comble quand même. On parlera aussi de l'éventuel futur directeur sportif du LS et du profil de ce dernier, et ça n'a pas l'air d'être très simple. Pour terminer, dans la dernière période, on évoquera encore une fois le cas du FC Bâle qui est vraiment déprimant, et de la chasse à Young Boys dans ce championnat de Suisse qui est apparemment inexistante. Et quand même, quelques mots d'UFC Sion avant le match au sommet de ce lundi. Bonne écoute des 3 quarts d'heure de cette équipe. Configuration habituelle pour ce podcast en 1-2-1, moi le présentateur, deux milieux un peu récupérateurs, mais offensifs quand même, Florian Vanet et Valentin Schnork, et le prêt sans option d'achat habituel de Blue Sport, Mickaël Bignon. Salut Valentin, salut Florian, salut Mickaël.
Salut à tous.
Salut.
Salut, salut, salut.
Bon messieurs, on va commencer directement avec Genève Servette, voilà que j'ai trop regardé de hockey ce week-end, avec le Servette FC. Valentin, il s'est passé quelque chose quand même d'assez incroyable ce dimanche. Servette a, normalement c'est un match tu gagnes 3-0 vu des statistiques, mais Servette a quand même bien trouvé le moyen de perdre 2-0 comme d'habitude, et ça commence à être vraiment franchement très inquiétant.
Ce qui est déjà incroyable, c'est que Servette a dominé un match, ça ne lui était pas arrivé cette saison depuis en championnat et Coupe d'Europe depuis la première journée contre Getse, donc c'est déjà peut-être un progrès. Maintenant, il faut être conscient que oui, la prestation de Servettienne est plutôt bonne, mais la prestation de Servettienne est bonne parce que Lucerne fait en sorte de se laisser dominer, jouer les coups de la meilleure manière qu'il peut les jouer, c'est-à-dire régulièrement en transition, en allant très vite à la récupération. Le but de Meyer après l'occasion manquée par Stevanovic est assez éloquent en la matière. Disons qu'on avait l'habitude du Servette qui était très vertical, qui balançait des longs ballons, mais en fait, là, c'est un Servette qui était dans le camp adverse et qui ne trouvait pas de solution non plus. Alors, il n'y a pas tant de longs ballons à balancer parce que tu es dans le camp adverse et que tu es assez haut, mais tu ne combines pas beaucoup mieux, tu ne trouves pas plus d'opportunités de frappe intéressantes, même s'il y en a. Il y en a quand même plusieurs. Et Servette aurait dû revenir à 2-1 égalisé si les statistiques avaient été respectées. Mais les grosses, grosses occasions, il n'y en a pas mille non plus. Enfin, sur les 20, 27 ou 28 tirs, t'en as deux ou trois. Quoi. Celle de Crivelli, enfin celle de Crivelli conjuguée à celle de Stevanovic, quand il y a de la 2-0, et puis celle de Stevanovic aussi à 1-0. Donc Servette a dominé parce que Lucerne s'est laissé dominer en grande partie. Mais Servette aurait dû en tout cas marquer un ou deux buts, ça c'est sûr.
Mickaël, comment tu as vécu ce match? Tu as la lecture statistique, on vient d'en parler. Et quand tu regardes le match, tu te dis que c'est presque facile pour Lucerne, en fait. Deux occasions, deux buts, mais vraiment les pubs Suva. Et puis derrière, Servette, bah, tu as l'impression qu'ils peuvent louer jusqu'à ce matin et ils n'y arriveront pas.
Bon, alors, ce qui est clair, c'est qu'avec Lucerne, ce n'est pas la première fois qu'ils font le coup cette saison. Hein. Ce n'est pas une équipe ultra joueuse, finalement. Après, Servette, moi, j'ai quand même. Alors, oui, ils ont plus joué, mais de ce qu'on connaît de la saison dernière. Moi, j'ai quand même l'impression qu'ils savent plus jouer. C'est-à-dire qu'ils se sont créés quelques occasions, mais c'est quand même dur, alors que c'était leur force la saison dernière de se créer des occasions face à certains blocs bas. Ils ont l'habitude d'avoir le ballon, ils ont l'habitude de faire tourner, d'avoir des joueurs comme Konia Stevanovic, des très bons toucheurs de ballon. Et là, j'ai l'impression quand même, alors même si avec un peu de réussite, beaucoup de réussite, ils doivent être à 2-1, 2-2, voire même gagner ce match, je pense qu'il y a un problème en ce moment de confiance. Ils ne savent plus jouer de cette manière qui les caractérisait la saison dernière. Et le match qui a été aussi joué en semaine, qui était complètement différent face au Slavia, n'a pas aidé à monter cette confiance parce qu'ils ont joué ultra physique face à une équipe ultra puissante. Et ils n'étaient pas prêts à ça, j'ai l'impression. Donc, moi, j'ai l'impression que le problème actuel, c'est cette confiance de rejouer au football comme ils savaient le faire avant.
Florian, on parle de confiance et je pense que le match de Stevanovic est l'exemple type. Un bon jour, il en met trois et puis là, même à 3 mètres des buts, la nappe.
Ouais, je peux entendre ça. Maintenant, il me semble que Mitchas n'a jamais été le plus grand définisseur. Hein. Je veux dire, très très bon passeur, ok, pas de souci. Mais là, on lui met un peu tout sur le dos, alors qu'au fond, j'ai des triplés à part. Enfin, je sais même pas s'il en a mis un Servette. Hein. Donc, ouais, je suis pas sûr que le point de bascule se situe complètement là, même si oui, on voit aussi au niveau un peu de son regard, etc., que voilà, c'est pas la confiance seule. Maintenant, par rapport à ce qu'a dit, bah, peut-être. Michael, je pense qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est une première brique vers un changement d'approche de René Weiler, ou alors est-ce que c'est vraiment Lucerne qui s'est complètement laissé dominer? Et du coup, il faut imaginer un Servette qui va repartir sur ses longs ballons jusqu'à on ne sait pas quand. C'est la question qui se pose, est-ce que c'est une première brique ou est-ce que c'était juste un épisode comme ça?
Non, mais Servette a pas joué à jouer différemment parce que Lucerne lui a laissé jouer différemment. Hein. C'est, je pense que le plan face à Servette, actuellement en tout cas, ce qui marche le mieux, c'est d'aller les chercher un petit peu, de mettre un peu de pression sur les deux centraux, sur le gardien, et puis tu sais, t'es sûr que ça va balancer. Et puis quand ça va balancer, mine de rien, entre les deuxièmes ballons, la puissance dans les duels, etc. Servette gagne pas beaucoup de deuxième ballon, Servette a beaucoup de peine à ce niveau-là, et Servette s'expose beaucoup quand il fait ça. Donc non, hier c'est clairement l'attitude de Lucerne, le score aussi. Ils ont quand tu gagnes après 7 minutes, quand tu gagnes 2-0 après 18 minutes, t'as tout intérêt à te replier un petit peu et puis laisser jouer, sachant que c'était en plus ton plan de match. Donc non, moi j'y vois un événement très occasionnel et puis très ponctuel sur la façon dont Servette a joué. Et que c'est Lucerne qui a un petit peu voulu ça, mais je suis pas convaincu que ça va arriver tout le temps. Alors maintenant, tu vois qu'ils jouent contre Winterthur, ils jouent contre Lausanne, les deux prochains matchs. Peut-être que contre eux, ça va être possible de jouer à peu près de la même manière. Mais si je suis un adversaire de Servette sur les prochaines semaines, je laisse pas m'installer dans mon camp parce qu'ils ont quand même des bons joueurs. Si tu laisses Stepanovic centré, Koutesa centré, t'as Crivelli à l'intérieur, t'as Bedia à l'intérieur, t'as cogné au deuxième ballon, tout ça, tu risques quand même de te la prendre à un moment ou à un autre. Donc non, c'est à mon avis, c'est quand même très. C'est le match d'hier était comme comme il était, mais je suis pas convaincu que tous les autres matchs vont être comme ça.
Après, Winterthur, c'est une équipe qui aime bien aussi par moments presser. C'est une équipe en confiance en ce début de saison. Donc, on pourrait très bien revoir ce genre de long ballon directement cette semaine contre Winterthur. Parce que je pense que les ailiers vont aller très haut, vont utiliser leur vitesse. Et je pense que Servette va repartir sur son plan de base. Après, on pourrait avoir ce même genre de scénario, une équipe de Winterthur qui marque très vite et qui recule. Donc, ça, on n'est pas à l'abri, ça, c'est vrai.
Bon, vous me voyez venir avec mes immenses sabots et des crampons. On parle de tactique un peu bizarre, de manque de confiance dans des clubs un peu plus instables que Servette. Le coach serait en danger. Florian, toi, tu penses que la question Weiler ne fait que se poser ou même pas?
Je me demande si elle se pose. Maintenant, il faut quand même se souvenir que René Weiler est arrivé à Servette en mars dernier déjà, si je me trompe pas. Je crois qu'on parle de quelque chose comme ça. Donc,
Il a signé, son contrat a été officialisé le 20 mars dernier. Ouais.
voilà, donc le terrain a vraiment été préparé. Et je crois que de ce côté-là, faut louer ce qu'a fait Servette au niveau de la gestion. Et à mon avis, c'est le genre d'approche que qu'offre une certaine sérénité à René Weiler. Il peut évidemment pas tout se permettre, mais voilà, je pense qu'on a quand même misé gros sur lui. Je pense que on n'arrive pas à être un entraîneur de ce niveau sans avoir aucune remise en question. Je pense qu'il y a quand même un moment où il peut se dire que il peut écouter ce qui se dit à côté de lui et se dire, ok, bon, peut-être que je fais fausse route, il faut que je revienne en arrière. Je sais pas, ça arrivera peut-être pas. Maintenant, pour moi, il n'est pas en danger pour le moment. Franchement, j'espère pas parce que je n'aime pas qu'on mette une pression comme ça un peu insidieuse sur les entraîneurs, même si évidemment il a besoin de résultats. Mais voilà, voilà pour ce que j'ai à dire là-dessus.
Après, par rapport à ça,
Vas-y.
excuse. Par rapport à
Vas-y.
ça, j'ai l'impression qu'il en a aussi un peu marre que les journalistes lui parlent de ça, parce que moi j'ai
Que les
plus.
journalistes lui parlent tout court, non?
Ouais, alors ça peut être aussi, mais de cette verticalité, il nous a clairement dit après le match du Slavia, non, mais il n'y a pas que ça à Servette, je leur dis pas de jouer vertical, arrêtez avec ça, quoi. Et peut-être que ça l'irrite un tout petit peu aussi et qu'au bout d'un moment, il va quand même se dire qu'il y a un problème là derrière. Mais si on revient sur Weiler, il faut quand même pas oublier qu'il a rempli le premier objectif. Donc je pense que qualifier Servette déjà pour une Coupe d'Europe, c'était pas fait. Et ça, je pense que le staff derrière ne va pas l'oublier. Donc, je ne le vois pas en danger pour le moment.
Dans l'histoire, Weiler en danger, moi, je vois. Je pense qu'il y a trois points de vue qui doivent être pris en considération. Le premier, c'est qu'au terme de, au niveau des supporters, la base populaire qui parle de Servette, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu autant de rejets d'un entraîneur en place. Geiger, il y a eu des moments où c'était un petit peu tendu. Enfin, t'entendais une ou deux fois, il faut qu'il dégage. Mais c'était jamais, enfin, ça ne durait jamais très longtemps. Là, il y a quand même un avis qui est partagé par énormément de gens, supporters, donc ça vaut ce que ça vaut, mais c'est à mon avis, c'est à prendre en considération quand même, qui sont déçus par ce qu'ils voient, par les résultats surtout, parce que c'est quand même ça qui fait un petit peu l'essence du truc, et qui ont beaucoup de regrets par rapport à ce qu'il y avait avant, évidemment. Après, est-ce que l'avis du public a un poids à jouer là-dedans? Ça, je ne sais pas. Et ensuite, il y a la perspective du club. Je pense que pour l'instant, le club a quand même été toujours de nature à ne pas trop paniquer. Ils vont laisser faire, en tout cas jusqu'à la trêve, ça me paraît, la prochaine trêve internationale, ça me paraît clair que entre la semaine anglaise qui arrive, la Rome à jouer derrière, t'as quand même un calendrier qui va être assez chargé, donc tu fais pas le coup maintenant et puis tu fais un bilan derrière. Et après, mon avis, je le partage. Enfin, disons que si je suis à la place de direction, je ne mets pas tout de suite la pression non plus, mais il va quand même falloir, au bout d'un moment, lui faire comprendre que son poste est en jeu. Et donc, il va falloir amener, en tout cas, une remise en question ou alors une manière de parler, une manière de faire passer son message un petit peu différente. Parce que là, on sent aussi, on perçoit en tout cas une forme, je ne sais pas si c'est du dépit, mais en tout cas, un langage corporel assez négatif de la part des joueurs qui sont quand même pas très, qui donnent pas l'impression d'être hyper convaincus par le projet par le football auquel ils jouent et le projet auquel ils sont censés suivre. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça qui se mélange sur le Servette actuel, sur la position de Weiler. En danger, pour moi, pas tout de suite, mais attention quand même.
Mais d'ailleurs, par rapport aux joueurs, si je me permets, j'ouvre le débat plus qu'autre chose, mais on se souvient que c'est arrivé en équipe de Suisse au début de Murat Yakin avec les joueurs qui avaient réalisé une sorte de putsch et qui avaient joué un peu à la façon dont ils voulaient plutôt que dans le projet de jeu d'Yakin. Je me demande si on peut imaginer ça à Servette. Bon, les longs ballons, ça va un moment, mais nous, ça fait 5 ans qu'on passe par le jeu, qu'on double les passes, qu'on passe par le milieu, etc. Je me demande si à un moment, l'initiative ne peut pas venir des joueurs.
J'ai peur que peut-être juste pour réagir là-dessus, j'ai peur que si on arrive à ça, ça ne fasse pas tout exploser. Weiler est quand même a quand même tendance à être très convaincu de ce qu'il fait. Je pense que si on arrive à ça, ça peut très mal se passer derrière.
Michael, pour continuer sur Weiler, depuis qu'il a fait le titre à Anderlecht en 2017, il a été viré, mais vraiment un mois après, quoi. Il a rarement fait plus d'une saison en place. Est-ce que tu penses que, justement, si lui dit que non, on ne fait pas que des longs ballons, alors que nous, on constate quand même que sur certaines parties, c'est un peu la base du truc. Est-ce que lui a encore un message qu'il porte?
À un moment, c'est même ce que je me demandais le concernant, c'est est-ce qu'il a vraiment du plaisir à être là? Parce que comme on le disait avant, il a pas du tout, il répond toujours mal aux journalistes, il est très peu souriant. Alors à part au moment où il faut aller dire bravo à Mario Frick à la fin du match, et là le sourire a fait un petit peu mal aux supporters servettiens d'ailleurs, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui ne joue pas entre lui, entre son vestiaire, entre sa position au club. Et là où je te rejoins, c'est qu'il y a eu quand même des mauvais résultats dans d'autres clubs et on peut se poser la question. Alors, je dois t'avouer que je ne suivais pas exactement Anderlecht ou même les autres clubs où il a entraîné au Japon, par exemple. Mais j'ai quand même cette impression que, en tout cas, là, son style de jeu, ce qu'il veut apporter à Servette en Suisse, il a de la peine à le faire passer et je ne pense pas qu'il a l'équipe pour le faire.
Bon, c'est quand même deux titres avec Al Ahly en Égypte en 2019.
Quand même.
Au Japon. Impressionnant. Florian, toi, tu penses que ça peut se retourner parce que y a eu du mouvement de personnel aussi sur le terrain. Ça va prendre ou pas?
Attends, pardon, se retourner dans quel sens?
Ça fait quand même un moment que Servette n'a pas gagné en championnat.
Oui, et donc, tu veux dire quoi par là?
Est-ce que ça peut tourner bientôt? Parce que là, on a une anglaise.
Ouais, franchement, T'as le Zane Wintertour qui arrive. J'ai pas envie de dire que c'est 6 points assurés parce que vraiment pas. C'est deux équipes qui fonctionnent même assez bien. Mais va bien falloir. Je sais pas vraiment quoi dire de plus. Va bien falloir faire des points à un moment ou à un autre.
J'ai envie de dire que si ça tourne pas cette semaine, je pense que ça tournera jamais pour Weiler en fait. Parce que c'est quand même deux équipes qui sont. Alors, malheureusement pour Servette en ce moment, des concurrents directs pour la barre, pour la sixième place, voire même un peu en dessous. Et si ça ne réussit pas cette semaine, si tu as un point, deux points, ou, enfin, je dirais une victoire sur les deux matchs, c'est la moindre des choses, honnêtement. Sinon, pour moi, il sera vraiment en danger après ces deux matchs.
Mais le problème, c'est qu'au niveau de l'imaginaire collectif, si tu perds contre Winterthur, qui est vu ouais. comme une petite équipe, et que tu perds contre Lausanne dans le derby lémanique, ça peut
être explosif. Je crois que si on arrive à ça cette semaine, on finit avec la semaine avec deux défaites du côté de Servette, ça va être très très chaud à la fin du derby contre Lausanne. Faut quand même prendre ça en considération. Il joue pas sa tête, mais il joue quand même beaucoup de sa réputation en tout cas.
Pendant que j'y pense, il faudra que je fasse une fois tout un quart d'heure d'un podcast sur Matteo Di Giusto. Il n'y aura pas beaucoup d'audience, mais au moins, ça, je me serais fait plaisir.
C'est nous qui te poserons les tests ce jour-là, d'accord ?
Exactement. Puis je fais venir Tim Liman aussi.
Ça sera là.
Bon, on passe au quart d'heure vaudois. Je pense que le sujet le plus brûlant, Florian, c'est incroyable Yverdon Sport. Stade plein, bon, pas un grand stade, hein, mais stade plein. Belle démonstration contre Bâle, tout va bien, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe ?
Écoute, il y avait tout hier, et ça fait très plaisir de voir ce stade comme ça. Quand tu te dis que 4200 spectateurs dans certains stades, c'est triste à mourir. Là, dans cette nouvelle configuration du stade municipal, ça ressemble à quelque chose, ça bouillonne pas mal. Alors, il y avait le terrain qui était au rendez-vous, hein. il y avait le spectacle, Yverdon a fait un match génial. Mais on se rend compte que si ça continue à prendre, Yverdon peut vivre quand même une saison assez unique. Parce que nous, dans cette configuration, tu as tous les spectateurs qui sont, je dirais, allez, quoi, 75% des spectateurs qui sont vraiment à hauteur du gazon, à hauteur du terrain, et ça donne un...
La caméra aussi, hein, d'ailleurs, c'est pas très agréable à regarder.
Hein. Ah, ok, j'ai pas vu ce côté-là.
J'y suis pour rien.
Et en parlant de caméra, d'ailleurs, il y a deux échafaudages qui risquent de faire, en tout cas, un des deux échafaudages qui risquent de pas mal faire parler de lui... obstrue pas mal la vue des VIP sur le terrain, donc je pense que ça pourrait un peu faire râler, mais je crois qu'il n'y a pas trop le choix au niveau du règlement de la Super League. Ceci étant dit, non, vraiment, tous les voyants sont au vert, je crois que c'est la bonne expression utilisée avec Yverdon.
Michael, il y a Yverdon, il y a genre deux mois, on se disait, oh les pauvres, pas de recrues, qu'est-ce qui se passe, on ne sait même pas qui est cet Américain qui vient, et puis ça a pris, on dirait Chelsea, mais à l'envers.
Ah, belle comparaison. Non, mais honnêtement, moi, personnellement, j'y crois pas de ce qui est en train de se passer à Yverdon, parce que même quand tu dis, quand Florian parle de saison unique, c'est vrai qu'on est même en train de se demander, bah, Yverdon, est-ce qu'Yverdon va pas tenir dans le top 6? Est-ce qu'Yverdon va pas devenir européen? Alors, on n'en est pas là.
Est-ce qu'ils joueront en Europe l'année prochaine?
Mais honnêtement, de ce qu'on a vu, alors bon, c'est un FC Bâle où le puzzle est pas à 100% complété, mais en même temps, si on compare les deux équipes, on a deux puzzles, et à Yverdon, j'ai l'impression qu'il est complété, alors qu'il y a des joueurs qui sont arrivés il y a deux semaines. Il y a un gars, Lisiero, au milieu de terrain, on ne le connaît pas, c'est un Brésilien, il fait un match, mais exceptionnel. Il marque en plus ce but de la tête qui est extrêmement important. J'ai de la peine à comprendre comment Marco Schellibaum est en train de réussir avec cette équipe où il a des profils revanchards, des profils qui viennent de très loin, des anciens du club, mais il est en train de réussir quelque chose. Alors, on ne va pas s'enflammer non plus, mais sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison et surtout sur ce match contre Bâle, en tout cas à Yverdon, je pense qu'ils ont le droit de s'enflammer un peu.
Surtout que je crois qu'on ne se rend pas trop compte de la pression que Marco Schellibaum a sur les épaules. Hein. Mais quand tu as des nouveaux dirigeants qui arrivent, qui te changent 17 gars dans l'équipe, à mon avis, tu peux juste te dire que le prochain, c'est l'entraîneur. Dès qu'il y a une petite spirale négative, quelque chose, il saute. Et bah, il est juste en train de leur donner tort et en train d'assurer sa place. Donc non, c'est assez fort.
Juste Valentin, tu as une idée comment ça a bossé cet été? Parce que aller justement chercher tous ces profils un peu partout, c'est quoi? C'est les applis, c'est les sites, c'est les agents
Je pense que le directeur sportif qui a été nommé, et que maintenant j'ai perdu le nom, l'Italien qui a été nommé quand les nouveaux dirigeants sont arrivés, a visiblement un bon réseau. Ça, je pense que, alors, il doit travailler sans doute avec pas mal d'agents à droite, à gauche. Il a visiblement un réseau en Afrique qui marche assez bien. Il doit en avoir un. Il est sur l'Europe de l'Est, il doit connaître quelques personnes aussi. Donc, ça aide. Mais enfin, ce qu'il faut dire, et puis c'est, ça j'appuie ce que Michael et Florian ont dit avant, mais en fait, on se disait que c'était une mosaïque de joueurs qui arrivaient à Yverdon et puis que ça serait très compliqué à assembler. Mais en fait, c'est quand même beaucoup plus facile quand les joueurs qui viennent sont très bons, en fait. Et Lizero, Lucy, Fier est super, aussi au milieu. Alors, Cespedes, on connaissait, mais ça donne beaucoup de crédibilité aussi à ce que... Enfin, disons, il connaît le championnat, il est aussi fort que ce qu'il n'a jamais été, j'ai l'impression, ces dernières années. Derrière les deux centraux, ils sont bons. On peut citer Mayus aussi devant. Enfin bref, il y en a toute une tonne qui sont vraiment des excellents joueurs. Et il faut quand même un bon réseau pour aller les chercher. Alors peut-être qu'il doit sans doute y avoir pas mal de moyens aussi qui sont mis dessus. Mais donc ça c'est quand même à noter. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que en tout cas pour l'instant, en tout cas dans cette, en tout cas de la manière dont Chez Liboum joue. Pour qu'Yverdon performe, il faut qu'il ait une équipe qui a envie de jouer face à lui. Et quand il a une équipe qui joue, il a ensuite beaucoup d'espace à pouvoir prendre derrière. Tazar est très bon, Lugoy est très bon en ce moment. Mais ça leur correspond. Si on prend le match contre Winterthur avant la trêve, il est quand même beaucoup moins réjouissant en termes de qualité du jeu, de tout ce que tu veux. Enfin, Winterthur avait marqué vite, ils avaient laissé l'Yverdon faire un petit peu. Et c'était quand même beaucoup, beaucoup plus emprunté. Donc, il n'y a pas toutes les configurations qui vont marcher pour Yverdon. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, celle-là, elle marche très bien. À voir si ça va être, il va y avoir l'adaptation ensuite derrière.
Après, à l'instant T, si je prends maintenant, si on me dit où tu places l'effectif d'Yverdon au niveau de la Super League, il y a deux mois, je t'aurais dit, pour moi, c'est 11-12e. Et là, quand je vois Getze, Le Slow et même des équipes, honnêtement, hein, comme Lucerne, je ne mets pas forcément Lucerne en dessous d'Yverdon sur l'effectif, sur la base de l'effectif et sur ce que j'ai vu en tout cas ce week-end.
Dernière question sur le sujet Yverdon, Florian, il est où Brian Baier? Il fait quoi? Pourquoi il ne marque plus?
C'est l'histoire du football, c'est compliqué, mais ce qui se passe, c'est que forcément, il y a à Yverdon, il y a 2-3 anciens qui sont mécontents parce que dans le football, la reconnaissance, c'est pas toujours une valeur phare, je crois qu'on peut le dire comme ça. Et puis, c'est forcément dur pour quelques anciens qui sont encore là, qu'on fait la promotion, etc. Mais le truc, c'est que les nouveaux sont bons et tu peux pas leur reprocher ça. Tu peux rien faire. Le cas Bayer est un peu particulier parce que, de nouveau, le club souhaitait le vendre. Ils n'ont pas réussi à le vendre. Et ensuite, le club a cherché à le prolonger. Mais sauf qu'entre deux, ils ont arrêté de le faire jouer parce qu'ils voulaient le vendre. Et voilà. Enfin, c'est comme ça que ça se met souvent dans le football, mais je comprends que ça fasse des déçus et des énervés. Et du coup, ça a amené à cette situation où je ne sais pas si on peut dire qu'il y a eu un conflit, mais en tout cas, on peut pas parler d'accord entre les deux. Et du coup, Brian Baier joue beaucoup moins qu'avant.
Et est-ce qu'il y a forcément un rôle pour lui dans l'équipe actuelle?
C'est une vraie question. C'est une vraie question quand tu vois performer les joueurs offensifs en ce moment.
Après, ça reste des paris, des Tazar, des Lungoyi, on connaît leur niveau de jeu à ce moment, ils sont capables d'être très forts, mais est-ce que sur le long terme, on sait très bien qu'un Lungoyi, à chaque fois qu'il a joué en Super League, ça n'a jamais percé complètement. Là, en ce moment, c'est la première fois que je le vois autant à ce niveau-là, est-ce que ça va durer? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais...
Bon, il nous reste une demi-période, on va quand même évoquer le cas du Lausanne Sport. Juste un mot sur le match, on était trois à y être. C'est intéressant ce qu'a tenté Ludovic Magnin, ça a été solide, même avec Dabanli, Valentin, un bon 0-0, on peut dire.
Disons que Lausanne a obtenu ce qu'il voulait obtenir, ce qu'il cherchait à obtenir. Zurich a quand même montré ses limites aussi à ce niveau-là, qu'on voit que Zurich a été premier du championnat, surtout parce qu'on lui a donné beaucoup d'espace et puis que Okita et Afrié et Renner aussi ont pu beaucoup les utiliser. Mais dès que tu lui enlèves un petit peu d'espace, même si Okita, à mon avis, fait pas un bon match par rapport à ce qu'il est capable de faire, c'est quand même des joueurs qui ont moins de latitude et tout de suite ça se voit. Maintenant, parlons concernant Lausanne et Ludovic Magnin l'a dit d'ailleurs en conférence de presse. compte tenu du fait que c'était Damali qui devait remplacer Dussen, qui est a priori moins de vitesse, moins de capacité à couvrir la profondeur, il fallait jouer plus bas. C'était le but. C'était assumé. Il fallait qu'il y ait Diabaté vienne défendre sur les extérieurs zurichois, donc en l'occurrence Borjan Niazevic et puis le fils Conte Sao. Il fallait en fait beaucoup travailler de manière très basse et aller beaucoup moins chercher haut. Et c'était pas, disons que l'identité du Lausanne Sport sur ce début de saison, c'était pas forcément ça. La question, c'est de savoir si Magnin, voyant le bon résultat qu'il a obtenu, voyant la bonne performance que son équipe collective, que son équipe a faite, est-ce qu'il va revenir à quelque chose qu'il a utilisé avant sans avoir les résultats, mais qui était sans doute plus intéressant et peut-être plus pertinent aussi sur la longueur, ou alors s'appuyer sur cette approche un peu plus minimaliste. Et là, bon, j'attends de voir un petit peu à Lugano et contre Servette.
Michael, moi j'ai eu la chance de ne pas travailler, donc je pouvais m'enfiler des bières, mais il y a quand même longtemps, Lausanne a défendu à 6 en ligne. Moi, j'ai rarement vu ça.
Non, mais alors, ce qui est certain, c'est que sur ce match, personnellement, je me suis ennuyé. Mais maintenant, ce qu'on demande au LS, c'est pas du beau jeu, c'est des points. Et d'ailleurs, Ludovic Magnin l'a dit depuis longtemps, on ne peut pas nous demander de bien jouer et d'avoir des points. Et je pense que... Enfin, d'ailleurs, c'est souvent le problème qu'on a dans le football roman. Hein. Ça a été le problème de Servette à certains moments. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un début. Alors, peut-être qu'on va s'ennuyer à certains matchs du LS, mais ça pourrait devenir quand même quelque chose qu'on revoit plus souvent. Parce que si je me souviens quand même des matchs du début de saison, par exemple celui d'IB, où Lausanne a été très bon dans le jeu, bah, fini avec 0 point. Alors, vous allez me dire, c'est IB. Mais là, on a un match complètement différent où ils sont venus pour le 0-0, même si Custodio, il me l'a dit à la fin du match. Non, ce n'était pas du tout ça. On ne voulait pas le 0-0. Bon, après, ça, c'est clair qu'il n'allait pas dire le contraire. Mais alors, ce n'est pas sexy, mais il y a un point, contrairement à ce qu'on a vu en début de saison. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que Lausanne pourrait bien continuer sur cette voie-là. Alors, peut-être pas autant sur cette voie-là, mais en tout cas, un jeu peut-être moins flamboyant, mais qui sera peut-être plus efficace.
C'est quand même formidable comme le Lausanne Sport cristallise cette question du jeu et des points. On a vraiment l'impression qu'ils ne peuvent pas faire les deux en même temps. C'est soit des points, comme plus ou moins l'année passée, soit du jeu comme en début de saison où il n'y avait pas les points. Et les deux ne viennent jamais ensemble, ce qui n'est pas une critique, ce qui est plutôt un constat plus qu'autre chose.
Alors Florian, je vais te dire, ce qui cristallise plus à l'apéro, c'est presque pas le jeu, c'est cet éternel débat du futur éventuel directeur sportif. On sait que Lausanne cherche, on sait qu'il y a eu des noms approchés, des noms qui ont été placés pour avoir des augmentations ailleurs, et que le principal... je ne veux pas dire écueil, mais la liste, numéro un sur la liste, c'est qu'il faut qu'ils s'entendent bien avec Ludovic Magnin. C'est un peu bizarre, je trouve, cette façon de procéder, mais ça dit aussi, Ludo a prolongé d'une saison, ça dit aussi la place que l'entraîneur de Lausanne a pris dans ce club.
Oui, tu as presque tout dit en disant ça. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, dans le fond, oui, il faut qu'ils s'entendent avec Ludovic Magnin, mais il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable d'élever le niveau du débat et qu'il accepte de déranger Ludovic Magnin, en fait, et de ne pas lui faire plaisir. Je crois que c'est ce que tout le monde attend. Et de nouveau, Ludovic Magnin peut être quelqu'un de très convaincu par son approche, mais aussi très à l'écoute. Donc, je ne sais pas, il faut vraiment trouver la bonne personne. Et ouais.
Michael, on dit qu'il faut qu'il soit en-dessus de Ludovic Magnin, mais on sait aussi que Ludovic Magnin doit donner son aval. Est-ce que ce n'est pas une question insoluble, finalement ?
Bon, alors, c'est clair que si c'est l'entraîneur qui décide de qui va le diriger, entre guillemets, c'est quand même compliqué. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Lausanne a besoin d'un directeur sportif ? Parce qu'ils ont quand même recruté des pas si mauvais joueurs cet été et je me demande comment ça s'est passé. Est-ce que c'est justement Ludovic Magnin qui a fait le job ? Est-ce que c'est venu de plus haut ? Là, si on regarde encore les deux dernières recrues, j'ai l'impression que c'est pas si mal, honnêtement. En plus, sur le premier match de Diabaté, c'est pas Baldé, hein, mais début intéressant selon moi. Oui, tu dois avoir un directeur sportif dans un club, mais travailler de cette manière-là, comme tu l'as dit, Robin, moi, je pense pas que c'est la bonne idée. C'est le club qui doit décider, c'est pas l'entraîneur.
Valentin, quand Baldé est parti, Lausanne, Ludovic Magnin a dit « J'ai dû rouvrir mon ordinateur ». Est-ce que justement, le directeur sportif ne devrait pas être là pour préparer ça 3 mois avant? Si machin part, j'en ai trois sous le coude. C'est aussi un sac face là.
Tu peux l'appeler comme tu veux, hein, directeur sportif, responsable de la cellule de recrutement, enfin tout ce que tu veux. Enfin, c'est directeur technique, directeur du football. Il y a tous les termes possibles et inimaginables. C'est un cahier des charges. Et je ne crois pas que dans un club sain, le recrutement puisse être fait, être réfléchi par l'entraîneur, puis être pensé par l'entraîneur. L'entraîneur doit avoir son mot à dire. A priori, ça me paraît quand même assez légitime, parce que tu dois quand même travailler avec des joueurs avec qui tu as envie de travailler et qui correspondent un petit peu à ce que tu recherches. Mais je crois que dans tous les clubs, enfin dans la plupart des clubs, et ça va dans l'autre sens aussi, hein, la plupart des clubs où c'est le directeur sportif qui décide tout seul d'engager un joueur et qu'il le mette à disposition de l'entraîneur qu'il n'a jamais voulu, ça ne peut pas fonctionner. Mais il faut, oui, je pense que le recrutement doit être pensé en premier lieu par une autre personne que l'entraîneur, et l'entraîneur doit travailler avec. Et donc oui, Ludovic Magnin, en bonne intelligence, doit maintenant peut-être participer à la recherche de cette personne-là, enfin être dans le processus de sélection, de recrutement, pourquoi pas, à condition que ça prévienne d'un semblant de copinage ou bien on joue avec les mêmes agents et puis on prend les mêmes joueurs. Donc voilà, c'est quand même tendu, mais je crois que Magnin doit avoir cette lucidité-là, qu'un bon directeur sportif, c'est important pour le Lausanne Sport de maintenant, mais surtout pour le Lausanne Sport des prochaines années. Et le Lausanne Sport des prochaines années ne peut pas dépendre que de lui, de Magnin.
Mais qui a fait les recrutements de cet été, selon vous? Moi, c'est ça la question que je me pose.
Ouais. Nice, ouais. Les infos de base, le scouting est fait en gros par Nice, mais Lausanne a aussi un petit bout de structure, et puis Ludo décide en dernier, j'imagine.
Donc le problème, il sera le même s'il y a un directeur sportif. Moi, c'est ça la question que je me dis, c'est que si c'est Nice qui met un directeur sportif, ça ne va pas changer grand-chose au schmilblick.
Non, je pense pas là que ce sera Nice, parce qu'il y a eu assez de problèmes récemment. Ce serait mettre les pieds dans le plat, les deux pieds en avant encore plus. Je pense que ça va être largement à éviter.
On se rappelle aussi que quand le très décrit Souleymane Cissé était au Lausanne Sport, il avait assez souvent les pieds et les poings liés. Il faisait de loin pas tout ce qu'il voulait. Et voilà, il répondait aussi beaucoup de Nice. Donc, faut pas oublier ce point-là.
On va passer au reste du monde, j'ai envie de dire. Et je suis obligé, on est toujours obligé de parler du FC Bâle, mais Florian, tu les as vus ce week-end. Où va s'arrêter la chute, j'ai envie de dire? Ils ont changé, cette fois, c'est piqué à absolument tout le monde. Je comprends pas comment un coach peut encore volontairement, même si c'était très bien payé, aller dans ce panier de crabe. Mais j'ai l'impression que, en plus, ça progresse pas. Ça a été comme Yverdon, tu as tout changé, tu as plein de nouveaux joueurs. Mais c'est Bâle, il y a des gros moyens, il y a des joueurs qui ont été achetés assez cher, mais ça ne veut pas.
Mais là, pour vous dire, ils sont même plus capables de défendre sur un dégagement du gardien. ça devient quand même. Non, mais c'est sérieux. Hein. Ils prennent leurs deux premiers buts comme ça. C'est impossible. Dans aucun club de Super League, quelque chose comme ça peut arriver. Et deux fois de manière différente. Une fois, c'est une erreur de communication sur le deuxième but. Une fois, c'est un contrôle raté de Rieger. C'est impossible, franchement, à partir de là, mais je suis très inquiet. Alors, ça arrivera pas à chaque match, on est bien d'accord, mais quand une base comme celle-ci n'est plus là, c'est triste. Et puis, de nouveau, on peut toujours parler de cette politique, d'aller chercher ce qu'on nous vend comme les meilleurs espoirs de chaque pays, de chaque continent, etc. Mais de nouveau, il n'y a pas de base là derrière. Et quand tu y réfléchis, la saison passée, ça a plutôt bien fonctionné, mais est-ce qu'il faut se dire que c'est parce que oui, c'est plutôt bien, attention, c'est correctement, quoi. Mais est-ce qu'il faut se dire, est-ce qu'ils n'ont pas tapé dans une saison plutôt chanceuse, et qu'une saison comme celle-ci, ça va juste retomber dans la moyenne, et la moyenne, c'est être au fond de classement. Nous, le but qui marque hier contre Yverdon, c'est un jour au sol. Alors, la scène m'a beaucoup fait rire, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Lungoyi qui s'effondre pour gagner un peu de temps, et Bâle qui joue, je pense qu'ils ont eu complètement raison de le faire, mais peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ça.
Michael, c'est quand même la preuve qu'on ne peut pas insulter le football année après année, au bout d'un moment ça se paye.
Bah là, en fait, le problème, c'est ça, c'est que c'est que des pions qui sont là un peu pour leur pomme et qui débutent leur carrière et qui savent très bien que dans 2 ans, ils ne seront plus au FC Bâle. Et on a déjà eu un peu le cas il y a 2-3 ans quand on avait un joueur comme Esposito, par exemple, qui jouait au FC Bâle. Mais c'était un des seuls, finalement, de l'effectif. Alors, ça tournait déjà pas très bien à Bâle, mais on avait un joueur comme Esposito qui, tu sentais, il n'était pas non plus... Il n'allait pas rester là 2-3 ans, il était en plus en prêt. C'est ce genre de joueur, et j'ai l'impression que là, il n'y a que ça. Il n'y a que des joueurs comme ça qui sont là un peu pour se montrer. Le Veiga, c'est un futur talent, j'en suis convaincu. Alors, je ne sais pas à quel niveau il ira, mais est-ce qu'il, je ne pense pas que ce soit un joueur pour le FC Bâle en ce moment. Et honnêtement, il ne joue pas ensemble. Malone, quand il marque, tu as l'impression qu'il est heureux, mais pour lui presque. Enfin, c'est quelque chose de particulier. J'ai de la peine à croire que ces pions-là vont réussir à faire quelque chose au FC Bâle. On parlait d'Yverdon avant, c'est clairement un puzzle qui n'est pas... Justement, il n'y a pas ce collectif, il n'y a pas le puzzle qui a été créé par l'entraîneur. Et d'ailleurs, à Bâle, ça peut aller très vite. Et je pense que Schultz, il est encore plus en danger que Weiler, on en parlait avant.
Moi, c'est ça qui m'inquiète plus à Bâle, c'est que évidemment, il va y avoir un moment ou un autre où Schultz va sauter si ça continue comme ça, parce que je ne vois pas comment il peut résister à la pression, alors que ce ne sera pas de sa faute, en tout cas pas plus sa faute que de celle de Degen, d'Eichhoffogel, etc. Maintenant, on sait que une fois qu'on sait que Bâle est comme ça, on n'a pas le droit d'être surpris, mais on ne peut pas être convaincu que ça ne va pas prendre. Moi, je pense que ça peut prendre, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de très très bons joueurs dans cette équipe-là. Hein. Mais tu as une équipe où tu as Hitz, Comas et Frey qui étaient sur le terrain hier et qui étaient là l'année passée. Donc déjà, tu pars de zéro. Alors, c'est sans doute plus compliqué de partir de zéro quand tu es à Bâle que quand tu es à Yverdon, à mon avis, surtout quand tu arrives avec un nouvel entraîneur et tout ça. Mais tu sais que la qualité même des joueurs, hein, Veiga, moi je suis désolé, le match qu'il fait contre Zurich avant la trêve, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. On a la qualité d'un joueur, alors peut-être que ça ne durera pas, je ne sais pas, hein, mais je pense que tu as quand même suffisamment de joueurs de très très haute qualité pour qu'à un moment ou un autre ça prenne. Maintenant, c'est une question de collectif, c'est une question d'entraîneur aussi, une question de groupe. Ça peut prendre, et alors ça peut avoir des résultats, ça peut finir en coupe d'Europe, ça peut aller gagner la coupe, j'en sais rien, il faudra voir au fur et à mesure de la saison. Mais l'inquiétude pour Bâle, pour l'instant, pour moi, elle n'est pas énorme, parce que je ne m'attendais pas à autre chose, sachant, vu le nombre de départs et d'arrivées. Ce qui va m'intéresser, c'est surtout de voir comment ça va évoluer. On a déjà vu qu'hier, Schultz a essayé d'amener quelques principes, Schmidt qui est plus à l'intérieur pour relancer avec une base de 3, avec Comas et Barisic, ça sortait à chaque fois, et après, c'est plus haut dans le terrain que c'est plus compliqué. Mais tu as quand même, comme je me répète, tu as quand même suffisamment de qualité dans cet effectif pour arriver à créer quelque chose qui soit intéressant en tout cas au niveau de la Super League.
Mais est-ce qu'il aura le temps de créer quelque chose?
Pour moi, c'est l'enjeu majeur, ça c'est clair. Est-ce que tu laisses le temps? Est-ce que tu ramènes, ou alors tu ramènes Fogel encore une fois, ou bien tu ramènes un autre, j'en sais rien.
Alors pour moi, ce serait une erreur de le virer, parce que finalement, c'est le club qui a changé toute l'équipe, et tu lui dis après 7 matchs, écoute, tu n'arrives rien à faire avec cette équipe, on va demander à quelqu'un d'autre. Donc ce serait quand même un peu à l'envers de ce qu'ils ont tenté de faire. Il fallait s'y attendre quand même que ça allait être difficile. Donc pour moi, il ne faudrait pas changer Schultz maintenant. Après, si dans 2 matchs, il y a plus que 9 points d'écart avec la barre, on parle de la barre pour le FC Bâle, la barre de la 6e place. Pour un club comme Bâle, ce n'est pas normal.
Oui, mais il reste encore, on est à 7e journée, il en reste 26 derrière quand même. Donc faut... avant qu'on coupe le championnat en deux.
Florian, on a passé que 7 journées, mais Getse, le recordmeister qui appartient à des Chinois qui veulent le vendre, on comprend pas grand-chose. Bâle qui part en vrille, Yverdon, qu'on comprend pas ce qu'il fait là-haut. Et puis pendant ce temps-là, premier, IB avec un match en moins, qui a pas changé grand-chose, qui a pas dépensé grand-chose de son pactole de Ligue des Champions et leader. Qu'est-ce que ça veut dire du championnat de Suisse, tout ça? C'est quand même, ça me fait un peu peur, moi.
Pourquoi ça te fait peur?
Parce que je me dis, il suffit d'avoir un peu de moyens, de bien bosser, puis t'es IB, tu te promènes. Derrière, tu as des projets qu'on ne comprend pas. 3 équipes vaudoises, ouais. C'est pas très normal. Des dirigeants du plus grand club de Suisse, normalement, qui ne savent pas ce qu'ils font là, qui sont contents d'économiser, et puis qui espèrent être bientôt vendus. C'est quand même inquiétant pour le foot suisse tout court, quoi.
Oui, bien sûr. Maintenant, Enfin, je crois que j'en ai déjà parlé, mais il y a toujours cet effet boule de neige dans le football suisse où le meilleur club devient toujours meilleur pendant que les autres stagnent, forcément, parce que les droits TV sont pas énormissimes. Alors
mais j'ai pas l'impression qu'IB devient meilleur, j'ai l'impression que c'est IB. Bah, quoi, c'est...
Ils sont toujours aussi bons, tu vois, mais qu'ils ne deviennent pas meilleurs ou qu'ils restent à leur niveau, fondamentalement, ils sont largement au-dessus des autres. Et ils touchent les millions de la Ligue des Champions que les autres ne touchent pas, ils vont les rechercher, pas forcément année après année ou presque. Et mine de rien, ça joue. Et peut-être que c'est juste qu'on est trop sévère avec notre football, que oui, IB au-dessus, que oui, bah, tout le monde ne bosse pas parfaitement, mais que mine de rien, c'est le niveau moyen du football suisse et il faut peut-être l'accepter, je ne sais pas.
Bon, Michael, on voit avec le coefficient UEFA, c'est déjà raide pour être dixième, alors la place fixe à peu près. Mais en fait, IB n'a pas besoin de progresser pour gagner encore. Même en régressant un peu, ils sont quand même champions. Et voilà, c'est bon. Ouais, moi, ça me rend triste.
Bah, le problème, c'est que c'est presque un point positif pour eux, mais c'est un point négatif, effectivement, pour le football suisse. Parce que quand on les voit en Europe, on peut dire ce qu'on veut. Alors oui, c'était, par exemple, cette semaine, c'était Leipzig, je veux bien. Mais de manière générale, j'ai quand même l'impression que l'équipe d'il y a 3-4 ans était plus forte que l'équipe de maintenant, que ce soit en championnat ou en Europe. C'est-à-dire qu'on avait plus confiance sur la scène européenne de dire « Ah bah tiens, IB peut faire quelque chose ». Là, j'ai l'impression qu'on se satisfait d'une défaite 3-1 contre Leipzig. Alors oui, c'est une grande équipe de Bundesliga, mais on est en train de se dire « Ouais, bah voilà, IB est à son niveau, IB peut de toute façon pas faire plus ». Et c'est vrai, moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que maintenant, c'est parti pour rouler un petit peu sur le championnat parce qu'il y a eu ce début de saison un peu mi-figue, mi-raise, hein, où ils sont partis sur une jambe parce qu'ils savaient qu'ils avaient ce barrage fin juillet, mais finalement, ils gagnaient quand même les matchs. Donc ça va être peut-être un peu trop facile pour eux et ça, c'est pas bon pour le football suisse de manière générale, pour le championnat suisse de manière générale, mais finalement, pour le club, si chaque année, ils font la Ligue des Champions en jouant comme ça, ils vont pas s'en plaindre.
Ce qui préserve un petit peu IB pour l'instant, c'est qu'ils font pas trop d'erreurs. Donc, dans leur stratégie, dans leur façon d'organiser le club, etc. Parce que moi, enfin, Bâle, il y a quelques années, donc avant qu'IB prenne l'ascendant, Bâle était aussi en difficulté, mais il continuait à être champion. Je suis désolé, les saisons avec Ursicher, c'était pas bon. Enfin, mais pourtant, ils étaient champions. Et à bout d'un moment, ils ont commencé à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et ça, le terreau devenait fertile pour qu'une autre équipe passe devant. En l'occurrence, c'était IB à l'époque. Pour l'instant, le terreau n'est pas fertile, mais il faudra quand même que IB fasse attention, quoi, parce que si là, tout d'un coup, ils se qualifient pas ils finissent pas troisième du groupe, ils finissent quatrième, ils ont pas de Coupe d'Europe ensuite. Peut-être qu'ils vont surtout être champions, mais combien de joueurs ils vont encore pouvoir garder? Est-ce que les joueurs qu'ils vont pouvoir recruter, ils vont forcément encore apporter un plus? Est-ce que tu dégringoles pas un petit peu là en ce moment et tu laisses l'opportunité à d'autres? Alors maintenant, il faut que les autres se révèlent. On a compris que Bâle, ce serait compliqué pour l'instant. Zurich,
derrière, il n'y a pas un vrai projet pour les pousser, quoi.
Celui que ça devrait être, pas maintenant, on est d'accord, d'ici 3, 4, 5, 6 ans, Servette l'organisation, la structure pour se dire que d'ici quelques années, il doit être le club qui pas concurrencer IB, mais qui doit pouvoir en tout cas. C'est leur ambition, être sur le podium régulièrement, et puis le jour où les autres y déconnent, bah, leur passer devant. Mais alors voilà, Servette est aujourd'hui dans un changement de cycle, changement de projet. Ils grandissent un petit peu à vue d'œil et puis il faut qu'ils s'habituent à ça. Mais peut-être que d'ici quelques années, il peut y avoir un basculement ou alors une ouverture, d'autres clubs qui reviennent aussi. Mais voilà, c'est à mon avis le terreau. Il faut qu'IB fasse attention et pas faire trop de conneries parce que le terreau devient fertile pour qu'ils soient un petit peu concurrencés, quoi.
Mais on voit qu'il existe quand même une marge. Ils peuvent perdre le titre face à Zurich, ils se relèvent. Ils peuvent rater une participation à la Ligue des Champions, ils se relèvent. Faudrait cumuler ça à quand même une ou deux grosses erreurs stratégiques, j'ai l'impression, pour que ça tourne.
Bon, on a encore 2 minutes, 3 minutes, Florian, tu y seras ce soir, parler un peu du FC Sion qui est quand même rentré dans le rang et pas forcément contre les adversaires les plus prestigieux. Ça vaut déjà cher ce soir, en fait, ça tourne vite en Valais.
Ouais, vaut cher, je sais pas, c'est le 8e match du championnat, mais déjà, Sion a remis des joueurs dans sa liste de contingent officiel, parce que c'est quand même un assez bon début. Maintenant, ça ronronne un peu, j'ai l'impression. On satisfaisait du début de saison en parlant de la fin du traumatisme de la saison dernière, etc. Franchement, ce qu'on voit depuis quelques matchs, alors il y a eu ce très bon match contre Getse, c'est clair, Mais franchement, je vous invite pas à aller regarder la première demi-heure contre Schaffhouse l'autre jour parce que.
Ah oui, j'ai regardé, moi j'ai beaucoup
Ah, bah, c'était vraiment pas agréable, je crois. Mais voilà, Didier Tolon ne s'en est pas caché, heureusement, parce qu'avoir un audit co après une mi-temps comme ça aurait été inquiétant. Mais de nouveau, j'ai l'impression que le session alterne un peu. Il est capable de réagir, ce qui est intéressant. Maintenant, il n'y a pas non plus grand monde sur le banc, j'ai l'impression. Didier Tolon joue avec, je crois, 12 joueurs depuis le début de la saison, hormis les remplaçants qui entrent souvent assez tard, pas beaucoup plus. Donc, oui, avec cette équipe-là, va falloir trouver des solutions pour que ça tourne un peu mieux, j'ai l'impression.
Quand on demande, c'est un peu comme ce que je disais sur Lausanne avant. Je trouve que on demande pas à Sion de bien jouer cette saison. On va demander à Sion de remonter. Et pour l'instant, ils sont invaincus. Ils ont fait un super match de coupe début de saison. Même si le jeu est pas parfait, il y a trois matchs nuls, peut-être un ou deux sur ces trois qui sont évitables. Mais ils ont encore toutes les cartes en main pour bien faire. Après, on en demande peut-être plus dans le jeu parce que Sion doit être une équipe forte de Super League, de Challenge League. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Mais je pense que ce soir, on aura des bons enseignements. Et d'ailleurs, contre Xamax aussi, c'est une semaine importante pour le FC Sion. Ça, c'est clair.
Je pense qu'on rend notre. Pardon, vas-y, Val.
Non, mais la question, c'est quand même de savoir si pour remonter, il faut pas quand même bien jouer et avoir en tout cas un projet qui soit ambitieux, offensif. Disons que les derniers exemples des équipes qui sont montées, nous, alors peut-être pas un petit peu moins l'année passée, parce qu'il y avait que trois équipes qui montaient en même temps, enfin, en
Puis
tout
un
cas
petit
deux
moins de
plus
level,
un
un
barrage.
moins de level
Voilà.
encore, ouais.
Voilà. Mais disons que les années précédentes, c'était quand même assez récurrent que c'était une équipe qui était en balance, qui finissait par monter, quoi.
Oui, et je trouve triste pour la Challenge League de toujours dire que l'équipe reléguée de Super League doit pas forcément bien jouer, mais doit faire des points, parce que finalement, ça rend notre championnat un peu terne, quoi. On a vu avec Lausanne l'année passée, si à chaque fois on demande ça à un Sion, à un Xamax, etc., ça peut être ennuyeux. Hein.
Mais je suis pas forcément
Miguel,
d'accord avec Valentin sur le fait que c'est la plus belle équipe
vas-y.
qui monte, parce que depuis quelques saisons, on voit par exemple un FC Aarhus qui est peut-être l'équipe la plus sexy du championnat sur certaines saisons, et ils arrivent jamais, jamais, jamais à monter. Donc je me pose quand
Mais
même la question.
l'équipe qui monte, normalement, n'est pas elle, quand même pas elle monte pas par défaut, elle n'est pas toute moche, hein, normalement, l'équipe qui monte.
Bah, quand Guetze remonte, c'est pas beau. Quand Winterthur
Le...
remonte, c'est pas l'équipe la plus sexy.
Ouais. Quand Servette et Lausanne étaient montés, c'était quand même pas trop mal, quoi.
Ça, d'accord.
Florian, dernier mot, c'est un petit tournant quand même, parce que le leader tourne à la maison, tu dois montrer quelque chose.
Ouais, je crois que t'as pas trop le choix. Il y a eu ces deux opérations porte ouverte au premier match, puis contre Guetze. Je crois que pour une fois, tu peux amener un peu de monde dans ton stade, des gens qui vont payer un billet. Ils seraient assez contents de voir du jeu. Et de nouveau, moi, c'est ici à 2 à 2. Il y a 2 à 2, je m'en fais pas. On est au début de championnat. Mais je suis plus pour qu'on voit quelque chose après ces dernières semaines un peu mitigées, plutôt que forcément un résultat à tout prix. Mais de nouveau, c'est une question de philosophie, peut-être.